Bonjour à tous. Nous allons commencer notre dernière journée de ce séminaire sur l'eschatologie impériale du souverain. Et la session est dédiée à le roi des trois religions et le souverain Messie. La première contribution vient d'Annelise Neff, qui nous parlera de Guillaume II d'Hauteville et la mort de Guillaume II. Prego.
Merci beaucoup. Alors, vous voyez que j'ai eu une hésitation, en fait, dans le titre. J'avais donné un premier titre qui, au fur et à mesure, s'est transformé en ce que vous avez après, c'est-à-dire l'épistolat du pseudo-Falcon, une eschatologie immanente, même si je parlerai d'Empire, je le dis tout de suite. Alors, on fait un léger retour en arrière, hein, on revient vers la fin du XIIe siècle. Et ce que je vais faire aujourd'hui, en fait, contrairement à ce qui a été fait jusqu'ici, c'est me concentrer sur un seul texte et proposer une relecture d'un texte d'ailleurs assez célèbre pour l'histoire de la Sicile des Hauteville, ou plutôt pour sa fin, mais qui est en fait un texte qui a connu assez vite le succès, puisqu'un des manuscrits qui nous sont parvenus contient des annotations de la main de Pétrarque et de Boccace. Alors, je présente rapidement la source et je dis tout de suite que je ne me prononcerai pas sur l'auteur. Il y a un débat qui n'en finit pas. Il a été un temps identifié avec Hugues Foucault, abbé de Saint-Denis. Alors peut-être, enfin peut-être ou peut-être pas d'ailleurs, plutôt, on penche plutôt pour non aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que notre anonyme, que j'appellerai donc le pseudo Falcon, du nom qui lui est donné sur un des, au moment de la première édition, que donc cet anonyme partage un latin raffiné et des références classiques avec cet abbé, notamment connaissance de Salluste, Cicéron, Lucain, au point qu'il a été qualifié de « one of the great Latin stylists of the 12th Renaissance ». Néanmoins, donc, je considérerai comme établi, parce que j'en parlerai aussi, qu'il est aussi l'auteur d'un autre texte qui figure toujours à ses côtés dans les manuscrits, le Liber de Regno Sicilie, soit qu'il le précède, soit qu'il le suive immédiatement. Alors, est-ce que ça... Non, d'accord. On va faire comme ça, voilà. Donc vous avez le titre complet ici. On a aussi cherché à identifier le Pierre qui était le destinataire, mais là aussi les avis varient. Alors, ce qui est sûr, c'est que cette chronique que je viens de citer, le Liber de Regno Sicilie, et qui est toujours qui marche la main dans la main avec l'épistolat, dans tous les manuscrits qui nous sont parvenus, est centré donc sur le royaume de Sicile et même sur la ville de Palerme, voire sur la cour royale, et qu'il suit donc les événements qui se déroulent de la mort de Roger II en 1154 à la mort d'Étienne du Perche en 1169, qui suit de peu un tremblement de terre qui frappa durement la partie orientale de la Sicile et semble refermer une parenthèse peu heureuse, de l'histoire de la Sicile, telle qu'elle est décrite par cet auteur. Une telle fin, en fait, ouvre la porte au règne personnel de Guillaume II, débuté en 1171, un règne célébré indirectement dans l'épistolat dont je vous parlerai aujourd'hui, qui débute précisément sur l'annonce de la mort de Guillaume II en 1189, et donc texte sur lequel je me concentrerai essentiellement ici. Alors, je dirais tout de suite que ce que je dirais, je vais vous le résumer rapidement, et puis ensuite je vais essayer de vous le démontrer, c'est qu'en fait, on a affaire à une lettre, à un texte qui traite plutôt de la fin d'un monde que de la fin du monde, ou, comme l'a dit Jean-Louis Fournel, alors que je n'étais pas là, ce qui prouve que je sais des choses in absentia, qu'il traite de la fin d'un temps plutôt que de la fin des temps. Un monde pensé comme un paradis terrestre, qui mobilise des images et des modèles en conséquence, mais dont, en réalité, l'horizon n'est pas céleste, mais bien impérial, hic et nunc, si je puis dire. Ce faisant, sont opposées deux manières d'envisager l'Empire, et c'est ce que j'essaierai aussi de voir. D'une part, en avoir le titre, c'est le cas d'Henri VI, et n'en rien respecter, en se livrant à la barbarie. D'autre part, ne pas emporter le titre, ne pas porter le titre d'impérator, mais mettre en œuvre un bon gouvernement en conséquence. Et ici, aucun nom n'est proposé par le texte, puisque le lignage des Hauteville est interrompu et que donc la désignation d'un rex à même d'assumer cette fonction doit être le fait des Siciliens. Alors, simplement, pardon, je reviens deux minutes sur le contexte historique pour ceux qui ne seraient pas tout à fait au fait, vu qu'on a parlé quand même de périodes assez différentes. Le contexte historique est important, bien qu'il soit abordé de manière très générique dans le texte. Alors, qu'en est-il ? En 1189, Guillaume II meurt sans héritier. Vont se manifester différents prétendants régionaux, tous donc liés de manière illégitime à la dynastie des Hauteville, et ils sont donc envisagés pour lui succéder. Mais il règne relativement brièvement. C'est le cas en particulier de Tancrède de Lecce. Alors, le problème que pose Tancrède de Lecce, qui est un bâtard d'un fils de Roger II, c'est qu'en fait, il est identifié, et il faut avoir ça en tête pour comprendre le texte, comme un des auteurs des massacres contre les musulmans, perpétrés en 161 dans l'île. Et de fait, lorsqu'il arrive au pouvoir, une partie de la population arabo-musulmane va donc se révolter, notamment dans la région de Corleone. Il règne donc de 1194, et son fils Guillaume III lui succède, âgé de 8 ans, pour quelques mois. Parallèlement, Constance, fille posthume de Roger II, tante de Guillaume II, que ce dernier avait mariée en 186 au fils de Frédéric Barberousse, Henri, devenu l'empereur Henri VI en 191, et son époux revendiquent tous deux la couronne qu'Henri obtiendra en 1194. Donc ceci est résumé ici. Hein. Je ne sais pas comment on peut... Non, bon, d'accord, il n'y a pas de flèche, donc je vous laisse regarder. Je poursuis. Alors, comment est organisé ce texte, pour comprendre un petit peu de quoi on parle. L'épître, en fait, s'ouvre donc sur une adresse directe au très cher Pierre, à qui l'auteur, nous dit-il, s'apprêtait à écrire, porté par une humeur printanière, quand il apprit la mort de Guillaume II. Suivi immédiatement des lamentations devant les événements qui menacent, et ces événements qui menacent, c'est donc plutôt l'irruption de hordes barbares dans l'île, et en particulier, particulièrement menaçante, parce que Palerme sera frappée. L'auteur invente alors une question imaginaire que pourrait lui poser son destinataire, et qui est un peu la clé du texte, sur les solutions envisageables. Il en voit essentiellement deux, j'y reviendrai. D'une part, l'union de tous les Siciliens pour désigner un roi qui gouverne de manière satisfaisante, ou bien le fait de se soumettre au joug des Théutoniki. L'auteur passe ensuite en revue une série de villes qui souffriront de cette guerre. Donc, je vous ai mis la liste ici, je ne la répète pas. Mais la plus importante, c'est bien entendu Palerme, à la gloire unique, qui est décrite longuement avant une salutation finale. Donc il est clair qu'ici, ce qui occupe l'essentiel du texte, hein, c'est une sorte de laus civitatum, au moment, bien entendu, où ce genre est parfaitement important ailleurs en Italie. Hein. Ce n'est pas spécifique, évidemment, à la Sicile. La moitié du texte est consacrée à cette description de Palerme, célèbre parmi les historiens de la Sicile, mais souvent utilisée en fait, à la fois pour ses précisions topographiques et pour son évocation de la prospérité agricole de la plaine de Palerme, désignée depuis l'époque moderne par l'expression de Concadoro. Il nous semble que ce faisant, et nonobstant évidemment l'intérêt incontestable du texte pour ses dimensions, on passe à côté de sa portée véritable. Alors, voilà, merci. Alors, donc, c'était pas ça que je voulais. Pourquoi on va faire comme ça. Alors, ce n'est certes pas la première fois que le parallèle est fait, mais souvent il est fait de manière un peu générique, parce que l'espace circumurbain des villégiatures royales des Hautes-Villes était appelé, comme vous le voyez sur cette miniature, Genoard, hein, Viridarium Genoard, là, ici en haut. Donc c'est une miniature tirée du Liber ad honorem Augusti, de Pierre d'Eboli, tout entier dédié à la gloire d'Henri VI, et qui est en fait une scène de deuil de la ville de Palerme à la mort de Guillaume II. Alors, Genoard, ça renvoie à quoi? Ça renvoie au Jannat al-Ard, littéralement le paradis de la terre, le paradis terrestre, qui est donc la désignation du paradis terrestre en arabe. Alors, c'en est même devenu une véritable tarte à la crème, hein, et on décrit ces environs de Palerme comme un paradis de moult points de vue. Ce que prouve ceci dit, et j'y reviendrai peut-être pour finir cette affaire, c'est que cette idée, cette représentation circulait largement et dans des camps opposés. Cette idée d'un paradis terrestre associé à Palerme. Alors, asseyons peut-être un peu plus solidement cette idée. D'abord, si on regarde comment sont évoquées les différentes villes dont j'ai parlé tout à l'heure, on trouve un certain nombre de raisons que j'ai rappelées ici. Messine est vantée pour sa capacité à résister à un endroit stratégique et pour ses hauts faits militaires. Catane, en fait, n'est pas tellement chantée, elle est plutôt plainte, si je puis dire, pour les tremblements de terre et les événements volcaniques qu'elle a dû subir. Et enfin, Syracuse est chantée, là, pour le coup, d'une manière assez classique, hein, avec une évocation de sa fondation, de sa production philosophique, de sa production poétique, mais aussi pour avoir mis fin à la tyrannie de Denis. Donc là aussi des choses assez classiques, mais qui, vous le voyez, plongent, se retournent vers un passé glorieux. Enfin, les dernières villes ne sont évoquées que de manière en passant. Donc on voit ici que l'auteur fait à chaque fois un minimum de référence au passé glorieux de ces villes, voire aux circonstances de leur fondation. Ce qui est relativement classique, hein, rien de très original ici. Par contraste, Palerme semble figé dans une sorte d'éternel présent. Et c'est pour ça que je voulais insister là-dessus, parce qu'il y a un véritable contraste. Pas un mot de son passé n'est évoqué. Elle semble comme hors du temps. Et seuls les éléments précis qui sont cités dans le texte, renvoyant un des personnages qui habitent ou qui ont fondé tel ou tel endroit, renvoient strictement à la période des Hautes-Villes, dont le nom n'apparaît pourtant jamais. Alors, cette évocation d'un paradis, en réalité, elle est déployée, elle est déclinée à plusieurs échelles. D'abord, c'est l'île même qui apparaît en passant comme un paradis qui doit être préservé des hordes de barbares, qualifié donc de Beata Insula. Une Beata Insula dont la paix interne est protégée, au moins momentanément, par son insularité. Et vous voyez que c'est opposé à un état de paix, dont je vous ai mis ici la version latine, menacé donc par les barbares. Ces barbares, et le terme de barbare revient à de multiples reprises, déclinés, donc vous le voyez, pour qualifier la langue, pour qualifier aussi les lois de ceux qui s'apprêtent à installer leur domination sur l'île. Donc ça, c'est une première échelle. Deuxième échelle, celle de la ville de Palerme, entourée de murs, devenue symbole du royaume, et l'auteur se plaît à imaginer massacre, captivité, viol, dû à ce qu'il appelle la Teutonica Insania, que rien ne pourrait canaliser, au contraire, qui s'apprêterait à être alimenté. C'est aussi, autre échelle, le paradis terrestre de la plaine de Palerme et pas seulement de la ville, qui devient à son tour paradis terrestre. Alors si on regarde ce qu'il en est au niveau de la ville même, je vous ai remis là aussi comment se décline cette description. Vous avez donc une première partie qui va en réalité souligner l'exceptionnalité et la perte qui s'annonce, puis une description du site, une évocation de la cité palatine Acropole, puisque... alors le problème, c'est que ça serait bien que j'arrive à... Qu'est-ce qui peut se passer avec ça? Que dalle, d'accord. Écoutez, je vais vous le décrire. Là non plus, ça ne marche pas. Ah merde, c'est pas ça. Pardon. C'est pas ça que je voulais faire. Donc, je vais le décrire. La cité palatine Acropole, hein, c'est ce que vous avez tout en haut de la carte. Vous savez sans doute que les cartes de Palerme, à partir de l'époque moderne, ne sont jamais orientées normalement. Hein. C'est-à-dire que, évidemment, la mer qui est en bas devrait être en haut, mais c'est une représentation classique. Et en fait, vous avez en haut la partie la plus haute de la ville, qui est le lieu du palais royal. Vous avez ensuite un plan de la ville tripartite, et vous voyez là donc, que vous avez la ville centrale, donc, qui est la ville antique, entourée de deux faubourgs qui sont comme deux autres villes. J'y reviendrai tout à l'heure. Et enfin, vous avez une évocation de la plaine qui l'entoure, évocation des cours d'eau, des productions agricoles, avec la déclinaison, nous dit l'auteur, de tout ce qui en fait tranche avec le nord de l'Europe, hein, il dit expressément, je ne citerai pas les autres productions. Je vous en ai mis ici la liste. Alors souvent, on évoque, hein, à propos de cette description, l'ortus conclusus du Cantique des Cantiques, on insiste sur le maillon sicilien de la diffusion du motif, voire même à sa dimension islamique, au cours de développement, je dois dire, qui me paraissent personnellement assez peu clairs. On pourrait, en revanche, assez facilement se référer à la Genèse. Alors là, je l'ai mis en français dans la traduction de la Tob. Pourquoi est-ce que je rappelle ce passage? C'est parce qu'en fait, il y a un certain nombre de points qui s'en rapprochent. Non pas que l'auteur évoque les trois fleuves de Palerme, ce qu'il aurait pu faire, le Chémonia, le Papireto et l'Oreto, mais parce qu'il divise donc cette ville suivant trois rues longitudinales qui la divisent, et je vous ai mis ici le passage. D'autre part, ceci est encore renforcé par le fait que, comme le pays de Hawila, la partie palatine comprend le palais neuf, mais aussi, comme vous le voyez, à la fois un palais neuf plein de gemmes, de pierres précieuses et d'or, mais aussi une tour pisane qui contient le trésor royal, un peu de la même manière que or et pierres précieuses donc, se retrouvent dans le passage de la Genèse. Mais ceci devient, me semble-t-il, encore plus frappant si on lit le passage entre la description de la partie palatine de la ville, donc la partie supérieure, comme vous l'avez vu, et la ville tripartite qui s'étend entre l'acropole et la mer. Le palatium, en effet, est décrit de la manière suivante, c'est la phrase que vous avez tout en haut, donc comme une tête hein, qui surmonterait le corps de la ville. Rien de très original là non plus, je vous l'accorderai, mais vous voyez que chacun des quartiers apparaît ici comme une ville en soi. Et il me semble que cette image peut également évoquer, au-delà du parallèle entre microcosme et macrocosme, entre corps politique et corps humain, relativement banal, un écho en fait à la cartographie des maps mondes qui se développe à la même époque. Je vous ai mis là plutôt des cartes tardives, mais on peut penser à d'autres. Donc un globe terrestre divisé en trois continents, surmonté à l'Orient, donc plus souvent qu'à son tour, par la tête du Christ. Non seulement la zone palatine est elle-même enceinte, recèle or et pierres précieuses, mais elle est caractérisée comme un espace d'otium et de quies pour le souverain. La description de Palerme se termine donc sur l'idée que l'auteur préfère à la description des monuments de la ville celle des productions agricoles. Et on peut penser ici à un autre passage donc, de la Genèse. Le thème de la Sicile nourricière que trahissent ses enfants revient en effet à de multiples reprises au cours du texte. Et on trouve là un bon tiers de la description hein, de l'épistola qui insiste explicitement, je le disais tout à l'heure, sur tout ce qu'on ne trouve pas au nord. De fait, l'Orient, assimilé au paradis, est souvent aussi le lieu, dans la cartographie, de richesses et de production particulièrement merveilleuses. Par ailleurs, deux fruits sont décrits en détail, comme des organismes tripartites sans égal, la grenade et le cédrat. La grenade avec évidemment une symbolique assez claire. Et deux autres, comme fructifiant sans cesse, la figue et le cédrat, dont on trouve sur un même arbre des vers et des mûres, avec une sorte, là aussi, de suspension du temps. Et je passe sur l'irrigation longuement décrite. Bien entendu, on aurait beau jeu de faire de ces différents échos des références voilée ou une inspiration de modèle qui renvoie à une eschatologie assez classique, dont les éléments apparaissent d'ailleurs sur les cartes en question, les cartes que je citais, le détroit de Messine, puis les murs de Palerme, semblant bien tenir à distance hein, les barbares de Gog et Magog, et on pourrait donc en faire une lecture assez simple. Pourtant, à lire le texte, une impression curieuse se dégage, car de fait, la dimension strictement religieuse n'est jamais soulignée. Ce qui a déjà été remarqué pour d'autres, historiens, pour le Liber de Regno Sicilier, qui évoque la fortuna, mais jamais Dieu ni sa volonté, la barbarie, mais pas les péchés, la perfection de Palerme, mais pas le paradis terrestre en toutes lettres. Un universel, en quelque sorte, mais un universel non transcendant. Et de fait, la solution qui est proposée hein, par l'auteur est strictement du ressort des êtres humains, du ressort des Siculi. Ceux-ci doivent s'accorder, choisir un roi, s'ils veulent l'emporter sur les troupes impériales. Le choix est ainsi énoncé, une unité qu'il faut retrouver, une unité mise à mal par les tensions entre chrétiens et musulmans, à peine effleurée ici, comme s'il s'agissait de ne pas les aggraver en ne les nommant pas de manière trop précise, qui s'accompagnerait de la désignation d'un roi vertueux, ou bien le choix de la servitude sous le joug des Teutoniques. Dans les deux cas, ce qui est visé, c'est la paix, qui semble le seul objectif de l'auteur, bien loin d'une purification dans la douleur. Mais, de fait, il souligne que cette seconde option, le choix de subir le joug, aurait lieu au détriment de la fama, de la dignitas et de la patriae libertas. On voit ici que, contrairement à moult textes eschatologiques, ou développant cette dimension même de manière limitée, la victoire ne passe pas par n'importe quoi. La solution, pardon, ne passe pas par la victoire sur les musulmans. Et de ce point de vue, il conviendrait, ce que je n'ai pas fait, je l'avoue, mais qu'il faudrait faire, d'étudier un certain nombre de textes qui font d'Henri VI celui qui pourrait être l'acteur de cette victoire à l'inverse et qui, eux, développent des dimensions tout à fait eschatologiques. On a donc ainsi ici un positionnement qui est en fait un positionnement contre d'autres prises de position qui apparaissent comme en négatif. Alors, quelle est cette solution donc ? Elle est mise en œuvre directement dans le texte par la présentation de Palerme comme symbole impérial et symbole universel. En effet, c'est un projet conscient est perçu comme tel, auquel fait de manière allusive, auquel fait référence de manière allusive l'auteur. En effet, alors que dans la première partie de son texte, l'auteur souligne les risques que font courir à la paix les divisions entre chrétiens et musulmans, il présente Palerme comme le lieu où s'imbriquent les trois groupes de l'île, latin, grec donc, et sarrasin, pour reprendre le terme de l'époque. Il le fait à travers une série d'images et d'évocations qui sont autant d'échos du préambule à son liber des Regnaux Siciliens. Une grande partie de ce dernier, en effet, le préambule du Liber des Regnaux Siciliens, est consacré à l'évocation de Roger II, fondateur du royaume de Sicile. Outre son intelligence, sa bravoure, le fait qu'il ait assuré la justice, la prospérité et la paix, et là on voit des échos à ce qui est demandé évidemment dans l'épistolat, est évoqué également l'action du roi. Et je vous ai mis ici la traduction de Turc en français. Donc on voit ici que le royaume de Sicile, à nouveau, jouit d'une paix profonde en toute quiétude, et c'est bien là le thème récurrent, mais encore une fois, ici et maintenant. Et ceci repose en fait sur la conquête d'un certain nombre de villes d'Ifriqiya, de villes de Berbérie, qui fut certes soumise au prix d'affrontements épuisants et dangereux, mais on voit que ceci se solde en fait par la volonté d'aller chercher ailleurs les meilleures lois au prix d'enquêtes minutieuses. Donc l'idée d'une réunion au sein du royaume de Sicile, d'apport qui renvoie à une universalité impériale, qui renvoie d'ailleurs à une construction réelle, en partie des hautes villes. Cette conception de l'impérialité comme une construction politique qui fait sa place à chacun dans la paix et la justice, et qui fait converger des apports multiples, se retrouve dans la description de la ville dans l'épistolat. On relèvera d'ailleurs qu'elle est aussi reprise dans le Liber ad honorem Augusti de Pierre d'Eboli, pourtant consacré à la célébration d'Henri VI. Alors, comment l'auteur opère-t-il ? Ici, donc, le Laus Civitatis se fait plus subtil. Nombre des éléments qui renvoient à la triple dimension de la population, en fait, ne peuvent être compris que par ceux qui connaissent la Sicile. D'abord, au sein de la zone palatine sont citées trois tours, la tour grecque, la tour pisane et la joaria, qui est en fait renvoie à un terme arabe dont j'ai mis, je crois, le sens. Ah non, pas du tout. Qui signifie donc pierre précieuse, jawara en arabe. Sont cités les ateliers de production de textiles de soie qui croisent les fils, comme on croiserait les groupes de la population, à 1, 2, 3 ou même 6 fils. De la chapelle palatine sont évoquées à la fois les mosaïques et le plafond de la chapelle palatine, dont on sait qu'il est recouvert de motifs islamiques. Enfin, la ville elle-même est décrite au fil des trois rues dont j'ai parlé tout à l'heure, qui l'irriguent en quelque sorte comme des cours d'eau. Et les éléments mêlent cette fois des références topographiques variées, recouvertes par les palais archiépiscopal, cathédrale, mais aussi forum des Sarrasins, cour royale et palais arabe. Il mentionne aussi des mentions des individus issus de groupes divers, Sidic le Sarrasin, le comte Sylvestre, Georges d'Antioche, le quartier des Amalfitains. Loin d'être exhaustive, cette liste est le résultat d'un choix, et d'un choix qui est bien entendu signifiant. En conclusion, donc, beaucoup est implicite dans cette épître. Henri n'est jamais qualifié d'empereur, ni même cité. Seule son épouse Constance l'est, pour lui souhaiter de se casser les dents sur Messine. Et elle est alors accompagnée du Theotonicus Rex. Mais aussi pour souligner donc son ingratitude vis-à-vis de la terre qui l'a nourrie. La Sicile n'est pas qualifiée d'impérium, et pour cause, mais les éléments humains, institutionnels, naturels, convergent de manière à suggérer une construction qui renvoie à une universalité impériale. Le bon gouvernement et le savoir que l'auteur loue chez Roger II sont des instruments non de salut, mais du seul paradis qui vaille, un royaume en paix et prospère, D'une certaine manière, le raffinement du style et l'abondance de références de l'auteur qui ne sont pas explicitées participent de sa démonstration. Est ainsi développée donc une eschatologie immanente de la fin d'un monde, considérée comme paradisiaque dans le sens générique du terme, mais non religieux au sens strict, et un horizon impérial, porteur de paix peut-être, précisément parce qu'il ne correspond pas au véritable impérium. Je vous remercie.